Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vendredi 17 février et vous écoutez l'émission Au ras des rues, l'émission qui vous fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope. Radio Kaléidoscope, c'est une radio qui se situe au village olympique et qui diffuse sur toute l'agglomération grenobloise. Alors, vous connaissez sûrement déjà notre équipe. Aujourd'hui, Sabrina, qui est autour de la table.
Bonsoir.
Marie-France.
Bonjour.
Benjamin.
Bonjour.
Gaël, Yannick et d'autres acolytes à la technique. Et enfin, notre invité Ismaël, qui sera là pour, en deuxième partie de l'émission, nous expliquer ce qu'est le jeu de Go. Bonjour Ismaël.
Bonjour.
Alors, le programme de l'émission, donc nous ferons un point sur la rénovation urbaine, puisque des réunions ont eu lieu. Nous parlerons d'une pétition du village olympique. Nous parlerons également dans l'actualité des crieurs des habitants du 40. Nous reviendrons sur l'événement Science en folie dont on avait déjà parlé. On avait eu un invité,
Cyril
de la maison de l'enfance du village olympique. Enfin, vous aurez le droit à une chronique sur le droit à la ville. Et puis, nous passerons au jeu de Go et donc nous parlerons du 22e championnat d'Europe de jeu de Go. Alors,
à Grenoble, bien sûr.
À Grenoble, effectivement. Vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur Le Crieur de la Villeneuve. Donc le site, c'est www.lecrieur.net. Vous pouvez également nous faire des suggestions, nous dire à quel point vous aimez notre émission ou nous proposer des sujets, des musiques sur notre adresse auradesrues, tout attaché, @lecrieur.net. Et enfin, vous pouvez très bien laisser des commentaires également sur notre page Facebook auradesrues, RKS 97 FM. Alors, Sabrina, je te donne la parole pour l'agenda traditionnel des semaines qui viennent.
Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter l'agenda du 17 février au 2 mars 2017. Alors, le vendredi 17 février, donc ce soir, à 20h, au Baratin, est organisée une soirée jeu en partenariat avec la ludothèque et le Baratin. Jeux en bois, jeux vidéo, il y en aura pour tous les goûts. Vous pouvez même apporter vos jeux de société et ça sera une soirée crêpe partie aussi. Donc n'oubliez pas d'apporter vos garnitures. Ensuite, préparation du carnaval de la Villeneuve avec les dates qui seront les suivantes. Atelier Bonhomme Carnaval en famille, le jeudi 20 de 2h à 16h à la MDH, le patio. Le jeudi 23 février de 10h à midi à la MDH Les Baladins. Le lundi 27 février de 10h à midi à la MDH Le Patio. Le lundi 27 février de 2h à 16h à la MDH Les Baladins. Ensuite, un atelier formation création de costumes qui aura lieu le lundi 13 février de 9h à midi à la salle 150. Après ça, il y aura un atelier bonhomme carnaval enfant le mardi 21, le mercredi 22 et le mardi 28. Et le mercredi 1er, qui seront tous sous inscription à la cordée. Après ça, un atelier manipulation marionnette géante, qui aura lieu le vendredi 24 février de 5h à 20h, au Baratin. Tout ça doit être fait sous inscription. Vous pouvez faire les inscriptions à la MDH du patio et à la MDH Les Baladins. Après ça, je vais vous dire qu'il y aura le lundi 20 février à 20h. Se déroulera à la salle polyvalente Les Baladins. Ciné Villeneuve vous propose une projection de Baksoun, un film de Solveig Anspach, un film gorgé d'absurdité hilarante, libre comme le vent polaire. La souscription, en fait, c'est à 5 euros, 10 euros ou bien 1 euro pour les enfants et les précaires. Après ça, mardi 21 février à 10h, une séance de 15h à 15h45 à l'espace 600. Il y aura un spectacle. À l'origine de ce spectacle, un album jeunesse infiniment délicat de Louise Dunton, qui parlera du corps de la femme, de ses défauts, de la vieillesse, de ce qu'on lui fait subir pour le parfaire, du chemin qu'une femme doit parcourir pour s'émanciper. Après ça, il y aura le jeudi 23 février de 18h à 19h. De 18h à 19h, l'exposition de soutien à Madame Rutabaga, le vernissage. Ça sera un vernissage qui se déroulera à l'ancien musée de Grenoble. Cette exposition durera du 24 février au 5 mars. Vous pourrez aller la voir à l'ancien musée de Grenoble. Cette exposition est organisée par le collectif Something Happen, qui met en résonance des créations de jeunes de la Villeneuve réalisées pendant les ateliers de rue de l'association Madame Rutabaga, avec des artistes confirmés issus de différents milieux de l'art. Ensuite, le vendredi 24, il y a le club ado à la bibliothèque de l'Arlequin, de 16h30 à 17h30. Le vendredi, 24 février, il y aura la soirée karaoké au Baratin de 19h à 20h. Le samedi 25, il y aura à la bibliothèque de l'Arlequin le temps des histoires, de 10h30 à 11h30. Ensuite, le mardi 28 février, de 15h à 17h au Baratin, il y aura la compagnie du savon noir qui va venir animer un atelier qui aura pour thème le voisinage. Et pour terminer, Grenoble, ville amie des aînés, il y aura une restitution le mardi 28 février à 5h. De 5h à 19h à la maison des habitants Le Patio. La démarche Ville Amie des Aînés a été créée par l'Organisation Mondiale de la Santé pour promouvoir un mieux vivre ensemble au sein des territoires. Grenoble s'est officiellement engagée dans cette démarche l'année dernière. Voilà.
Merci Sabrina pour cet agenda bien touffu. Et je me permets de vous rajouter quelques rendez-vous. Alors en fait, dans le cadre des rencontres sur le droit à la ville qui vont avoir lieu du 8 au 11 mars, il y a une petite, un petit avant-goût de ce qui va se discuter pendant cette semaine, parce que un étudiant a organisé un festival de films sur donc les sujets qui concernent le droit à la ville. Et ce festival se déroulera donc à la Cité des Territoires, donc c'est l'université de géographie et d'urbanisme qui est située 14 avenue Marie-Renoir, du 27 février au 6 mars, à chaque fois à 17h30, et c'est gratuit. Voilà. Marie-France, tu
veux... Oui, pour signaler que le carnaval du village olympique, qui aura lieu le vendredi 3 mars après-midi au village olympique et à Vigny-Musset.
Voilà, donc vous avez de quoi vous occuper. En tout cas, nous enchaînons, pour ne pas être trop long, sur l'actualité. Donc cette fois-ci, pas que du crieur de la Villeneuve, mais aussi du village olympique. Marie-France, tu veux nous parler de l'atelier de rénovation urbaine qui a porté sur le village olympique.
Oui, c'était donc dans le cadre mercredi 15 février au Baratin, de 19 à 21h, a eu lieu donc une rencontre à l'initiative d'élus, de techniciens de la métro ou de la ville. Ça portait donc à la fois sur l'ANRU, c'est-à-dire les Villeneuve de Grenoble, et pour une fois, il y avait une place qui était faite spécifiquement au village olympique. Voilà. Donc moi, j'ai participé effectivement à la table qui avait... Tout le monde se mettait autour de table, et il y avait des plans pour les projets et on discutait, que ce soit avec les élus ou ceux qui nous expliquaient les projets qui avaient été présentés par les passagers des villes. On a déjà évoqué ce groupe qui est chargé de présenter les projets. Et donc, Il y avait, on était un certain nombre, surtout de l'union de quartier, quelques personnes extérieures au quartier, avec Marie-Yvonne Boileau, qui est élue à la mairie de Grenoble, et Eric Ruiz, qui est un technicien, enfin, qui est responsable au niveau de la métro, qui est responsable des études, de la concertation. Il est en charge, effectivement, du renouvellement urbain. Donc, après quelques protestations initiales, hein, qui, justement, par les membres de l'Union de quartier présents, qui concernaient l'absence de projets concernant le village olympique dans ces projets, que ce soit l'ANRU 1 ou l'ANRU 2, on nous avait expliqué que ce n'était pas prévu. Finalement, il y a pu avoir des échanges plus sereins et constructifs autour de cette table où on avait les plans du quartier comme il est actuellement, de quelques projets qui étaient évoqués. C'était essentiellement pour... on a proposé d'améliorer des lieux, des bâtiments, une circulation meilleure, un cadre de vie pour améliorer l'attractivité du quartier. Brièvement, je peux dire qu'on a évoqué les bâtiments du Crous qui ont été fermés et même murés, ce qui donne un peu une mauvaise image du quartier. C'est une partie des résidences universitaires qui ne sont plus aux normes et qui ont été fermées. Je rappelle qu'il en reste une seule qui est un squat avec des Africains de la Corne de l'Afrique, de l'Afrique de l'Est, et qui est toléré jusqu'à présent et depuis plusieurs années par la préfecture. Donc sur ce crew, on va reprendre les idées qui avaient été lancées dans le cadre des fêtes de quartier ou d'enquêtes faites par des étudiants en géographie ou en architecture. Et donc la parole a été entendue et on espère qu'il y aura une suite. Il est évoqué le fait d'en faire des bâtiments pour des locaux pour l'économie sociale et solidaire ou pour des locaux associatifs. Une étude est lancée également sur les rez-de-chaussée. C'est un projet avec la SDH, donc qui est un des bailleurs sociaux du village olympique. On a évoqué la destruction de l'autopont en face des 34-36 avenue Marie-Rénoir. Nous avons demandé qu'il y ait une attention se porter à l'aménagement des abords du collège avenue Marie-Rénoir parce que c'est très peu accueillant, il y a un manque d'éclairage. On sait que c'est l'endroit où peut-être pour cette raison, où on brûle les voitures. Donc, il serait question on a demandé que ce soit rendu un peu plus attractif. Le collège du village olympique, comme d'ailleurs celui de la Villeneuve, même si la fréquentation s'améliore, il y a ce qu'on appelle un évitement de ce collège par les habitants des quartiers. Bon, on a parlé aussi, il y a dans le cadre dans le collège même, un bâtiment faisait partie du collège, mais qui a été rendu à la ville parce qu'il y avait des problèmes d'amiante. Donc, soit on le désamiante, soit on le réhabilite pour un usage collectif dans le quartier. On a évoqué la création d'ascenseurs dans les petits bâtiments de 3 étages parce que bon, il y a des anciens locataires qui vieillissent et où il y a des familles avec des jeunes bébés, etc. Et ce problème a été posé. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette rencontre.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'il était aussi question de la pétition que lance une partie.
Oui, effectivement.
Je n'étais pas présent à cette réunion, mais je pense que...
Quelqu'un est venu nous en parler à notre table du village olympique.
Parce qu'une pétition est lancée donc, sur le quartier de la Villeneuve et même étendue à tout Grenoble et à toute l'agglomération. Une pétition contre les démolitions programmées dans le cadre du nouveau plan de rénovation urbaine, donc à savoir les démolitions du 160 Galerie d'Arlequin, du 20 Galerie d'Arlequin et du 1 Place des Saules. Donc si vous aussi vous trouvez qu'il est stupide de démolir des bâtiments sachant que Grenoble n'a pas assez de logements, sachant que à peu près plusieurs milliers de personnes sont à la rue dans l'agglomération.
Environ 2000 et 4000 sur le département.
Voilà, 4000 personnes à la rue en Isère et donc 2000 sur l'agglomération. Eh bien, venez signer cette pétition. Vous pouvez aussi la signer en ligne sur le site change.org. C'est change.org. Et puis sinon, venir la signer sur le quartier de la Villeneuve. Et puis, dernière précision, il y aura un rassemblement donc, contre les démolitions imposé à la Villeneuve, ça sera le mercredi 8 mars à 18h devant le patio.
Merci Benjamin. Est-ce que tu voudrais également nous faire un petit point sur un sujet qu'on avait déjà abordé, les habitants du 40, parce que je crois qu'il y a du neuf sur le crieur.
Il n'y a pas tout à fait du neuf sur le crieur, il y aura bientôt du neuf sur le crieur, l'article n'est pas encore publié, mais un petit avant-goût, en fait, on avait déjà parlé de l'inauguration du 40 et du 50 Galerie d'Arlequin rénovée, donc c'était en décembre 2016, et depuis j'ai rencontré quatre habitantes du 40 Galerie de l'Arlequin, qui protestent contre les conditions de rénovation de leur immeuble, en fait, et surtout qui contestent l'inégalité de traitement de la rénovation, parce qu'il faut savoir que beaucoup de locataires ont été relogés, mais à peu près une quarantaine est restée au 40 pendant les 3 ans qu'ont duré les travaux. Et en fait, les appartements vides ont été quasiment refaits à neuf et les appartements occupés par les locataires ont été à peine rénovés. Il y a juste eu un changement de chauffage, en fait. Et du coup, les habitants réclament un dédommagement de la part... En plus, les habitants se tapent une augmentation de loyer puisque leur loyer augmente de 7%. Alors au début, c'était 10% qui était prévu. Là, ils se tapent que 7%, donc ils ont un peu gagné là-dessus. Mais bon, les habitants gueulent un peu contre ça puisqu'ils se sont tapés 3 années de travaux pour au final voir leurs appartements quasi pas rénovés. Et donc, ils demandent une compensation financière, en fait, à la SDH, donc leur bailleur social, pour voir si... Petit geste commercial vis-à-vis de cette condition de rénovation. Donc voilà, c'est un article qui sera bientôt à lire sur le site du Crieur.
Merci Benjamin. Alors on va se faire une petite pause musicale avec un titre qu'on avait déjà programmé. I'm Not Your Toy de Larroux. Voilà, et bien je vous laisse écouter et faire cette pause avec nous.
Touches leave me missing. I wish I could be.
Voilà, donc vous êtes de nouveau avec nous sur l'émission Aura des rues, l'émission qui vous fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope. Alors, eh bien, Marie-France, tu voulais nous faire un retour sur l'événement Science en Folie qui a eu lieu
au village olympique.
Au village olympique.
Et à Vigny-Musset, oui, tu nous en as parlé tout à l'heure. Donc, c'est la Maison de l'Enfance, Prémol, qui a organisé cette grande journée le samedi 11 février. Et donc, Cyril, effectivement, nous en avait parlé dans une émission précédente. C'était sur le thème « La science est un jeu d'enfant ». Il y avait des ateliers de manipulation scientifique gratuits pour tous et qui étaient proposés à partir de 3 ans. Alors, dans différents lieux des quartiers, donc à l'espace partagé Vigny-Musset, au café des voisins-voisines juste à côté, au local de l'Union de quartier Vigny-Musset Village Olympique, à la maison des habitants Prémol, dans plusieurs salles, à la maison des jeunes et à la maison de l'enfance, donc de 9h à 17h30. Tous ces lieux se sont transformés en ruches de bruissement, d'attention, de curiosité, d'émerveillement des enfants, comme des parents d'ailleurs. Sur de nombreux thèmes, donc c'était soit la découverte des planètes, on les a regardées, on les a dessinées, sur l'environnement et le réchauffement climatique, sur le son, le plaisir, mais aussi les dangers de l'écoute. À la Maison des Jeunes, c'était des machines et des hommes avec des expériences et des démonstrations sur la symétrie, la lumière, les couleurs, la matière vue à travers un microscope qu'on branche avec une clé USB sur un ordinateur, des jeux de création et des expériences incroyables. Et puis, à la Maison de l'Enfance, le Fab Lab, on a fabriqué du papier, de la pâte à modeler et aussi la tête du bonhomme carnaval qui sera, je suppose, brûlée le vendredi, le jour du carnaval du quartier. On s'est intéressé aussi à l'écologie, reconnaître des traces d'animaux, découvrir les effets de l'énergie solaire, les éoliennes, etc. Tout ça, c'était préparé par les animateurs du quartier avec des mathématiciens, des élèves ingénieurs, l'association Planète Science, des chercheurs du CNRS, sans oublier le coin lecture et documentation proposé par la bibliothèque de l'Arlequin. Et les enfants ont eu le plaisir de retrouver l'ancienne bibliothécaire lectrice conteuse de la bibliothèque Prémol. Pour terminer, une buvette pour le thé, le café, les gâteaux et la convivialité. Voilà.
Merci.
C'est un grand succès, je crois, hein, vraiment. Il y a eu beaucoup de monde et beaucoup de fréquentation.
Bon, bah super. Ravie d'apprendre que ça a été une réussite.
C'est vrai.
Eh bien, moi, je suis partie pour vous faire la chronique de cette semaine sur le droit à la ville. Donc, pour ceux qui ne nous ont pas écoutés précédemment, nous avons entamé de creuser le sujet qu'est le droit à la ville à travers les différentes émissions que nous faisons. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de prévention situationnelle et d'espace public. La prévention situationnelle, c'est surtout une question de sécurité. C'est une discipline qui est la science de créer des dispositifs pour prévenir du passage à l'acte de délinquants ou de criminels. Ce sont des Américaines qui ont théorisé ce domaine dans les années 70-80, à partir des travaux de l'école de Chicago. Mais aujourd'hui, ces dispositifs ont envahi nos espaces publics, au point de vouloir évincer jusqu'au dernier SDF de notre charmante ville. Et oui, une question de sécurité face au crime, nous en sommes arrivés au nettoyage de tous les indésirables qui nous rappellent la violence structurelle qui plane au-dessus de nos têtes et qui nous menace d'un licenciement, d'une expulsion ou, moins grave, de manger des pâtes sans sauce jusqu'à la fin du mois. La prévention situationnelle est donc devenue l'art de cacher les pauvres et les chômeurs qui zonent en groupe ou seuls au pied des immeubles et sur les bancs publics. Il y a 2 jours, une petite troupe d'étudiants en urbanisme ont parcouru le quartier avec ce message dans l'idée de créer la discussion avec des passants. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la rue ? Ah ah ! Et qu'ont-ils récolté ? Eh bien voilà, ils nous ont rapporté. On n'a pas le droit de faire pipi. Pardon. On n'a pas le droit de faire caca, on n'a pas le droit de faire l'amour dans la rue. Oui, c'est vrai que ça fait rire comme ça, et pourtant, ce n'est pas anodin. Car face à des besoins primaires et intimes comme cela, que faire quand un chez-soi n'existe pas ? Peut-être certaines ou certains d'entre vous, chers auditeurs et auditrices, ont déjà ressenti cet inconfort, voire cette angoisse lors d'un voyage dans une autre ville ou dans un autre pays, de ne pas trouver un petit endroit propre et accueillant pour nos besoins de base. Peut-être vous aussi avez-vous vécu cette désagréable expérience que de demander à un barman renfrogné de pouvoir utiliser ses toilettes et de vous entendre répondre « Non, ce n'est que pour les clients » dans un centre-ville touristique où le prix de l'expresso est de 5 euros. Et avec un verre d'eau gratuit, je peux ? Non. Alors, prenons la mesure des choses. Quand c'est le lot de tous les jours, cela devient tout de suite moins drôle de parler de pipi ou de caca. Une autre activité que l'on est amené à faire dans la rue quand on n'a pas de chez soi, c'est de dormir. Vous savez, ce moment où l'on s'abandonne pour nous reposer de la journée, de toutes les petites aventures plus ou moins faciles à affronter, de se libérer de la fatigue de traîner notre vieille carcasse. Eh bien, avez-vous testé de les repose-fesses dernier cri du centre-ville où l'on peut s'asseoir debout ou encore les bancs avec accoudoirs tous les 40 cm, autant dormir par terre. On pourrait rebaptiser cette discipline le cache-misère, d'autant qu'avec les menaces d'attentats, ce ne sont plus vraiment les recoins sombres qui font peur, mais plutôt les grands espaces pleins de monde, les transports en commun, les bagages oubliés, les personnes avec des grands manteaux, les poussettes, le voisin qui ne dort pas, le caniche de ma grand-mère, tout quoi. Donc, pour revenir à notre pauvre espace public, oui, vous savez, celui où on devrait voir la diversité de la société représentée, celui où on devrait faire des grandes fêtes publiques, celui où l'on vient se battre pour réclamer nos droits qui ne sont pas respectés par l'État, c'est-à-dire les moyens d'aller vers plus de liberté, d'égalité et de fraternité. À la place, pour des raisons de sécurité, nous acceptons la production d'un espace inhospitalier, voire excluant. Un espace en vérité voué à la fonction commerciale et à la fluidité des déplacements, métro, boulot, dodo. Cet espace qui semble neutre se vide de son sens, celui de relier les êtres humains fiables dedans et les êtres humains défaillants dehors, en perpétuel mouvement, car même dans les espaces laissés vides, on ne les autorise pas à exister. Enfin, pour finir, quelques exemples de dispositifs. Les produits répulsifs afin d'éloigner les SDF occupant une sortie de secours des centres commerciaux. La création de lignes de mobilier urbain anti-SDF. La diffusion de musique classique dans les parkings ou autres lieux d'attente. Et enfin, l'utilisation d'un éclairage bleu dans les gares SNCF afin d'empêcher les toxicomanes de trouver leurs veines. Et oui, on a pensé à tout. Je vous laisse réfléchir à d'autres idées que vous aimeriez ajouter à cette liste. N'hésitez pas à nous les envoyer par mail pour le grand concours Ville en transition, Ville sans troublions. Et voilà, donc nous nous faisons une petite pause musicale pour nous reposer le cerveau et réfléchir en paix. Alors, nous allons écouter African Flower de Duke Ellington. Thank you. Voilà, donc c'était African Flower de Duke Ellington. Vous êtes toujours sur Aura des rues, sur Radio Kaléidoscope, et nous allons commencer notre petit sujet sur le jeu de Go, puisque du 18 au 25 février, nous aurons le premier tournoi tournoi international de Go de Grenoble, et également le 22e championnat d'Europe jeunes de Go. Et donc aujourd'hui, eh bien, on a Ismaël Fatala, pardon, qui est avec nous en studio, et Gaël qui va mener cet entretien, voilà, puisque lui aussi s'y connaît bien en jeu de Go. Donc, eh bien, tout d'abord, Benjamin, tu voulais nous présenter José Olivares, et je te laisse la parole.
Oui, puisque José Olivares est donc un professeur du collège Lucie Aubrac, donc le collège de la Villeneuve, et par ailleurs joueur de Go et organisateur de cette semaine du jeu de Go, de ce championnat d'Europe jeune de Go. Et les étudiants, enfin les collégiens de Radio Villeneuve, donc la web radio du collège, l'ont interviewé au sujet de cette semaine du jeu de Go. Puis je vous propose d'écouter cette interview qu'ils ont fait de José.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
J'aimerais entendre que tout le monde aime la Villeneuve et qu'on y est bien à la Villeneuve.
Marhaba bikoum à la Radio Villeneuve.
Des interviews concernant les habitants, en particulier au niveau de la propreté.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
Et je sais que les gens ils ont peur de la Villeneuve, donc j'aimerais que grâce à la Radio Villeneuve, ils aient moins peur, donc on leur parle des bons côtés de la Villeneuve.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
Des nouvelles du collège déjà, que vous parliez de la vie d'un collégien de la Villeneuve dans son quartier.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
Mais c'est très bien ça.
Et bienvenue sur Radio Villeneuve.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
Bienvenue sur le radio, comment il s'appelle ? Villeneuve.
Aujourd'hui, notre invité du jour est José Olivares, championnat d'Europe jeune du jeu de Go. Et donc, on l'a invité ici justement pour lui parler du championnat d'Europe, du jeu de Go. Donc, vous pouvez nous dire où ça se déroule ?
Alors, les championnats d'Europe jeunes de Go se dérouleront donc à Grenoble, dans le quartier de la caserne de Beaune, au sein de l'IUT Génie Thermique, du 18 au 20 février 2017.
Combien de personnes attendez-vous ?
On attend environ 250 jeunes minimum, qui viennent un petit peu de partout en Europe, et puis une soixantaine, 70 accompagnants, donc en gros ça va faire à peu près 350 personnes.
Et là-bas, il y aura d'autres ateliers comme le jeu de Go pour patienter, par exemple ?
Alors, en parallèle du championnat d'Europe jeune, oui, il y aura de nombreuses activités qui se dérouleront plutôt au sein de la caserne de Beaune, avec des ateliers pour découvrir le jeu de Go, mais également découvrir des choses liées à l'Asie, donc un peu de calligraphie, de l'origami, du dessin. Et le dimanche, il y aura une rencontre Go Escalade au sein de la salle Berthe de Boissieu.
Ah, pourquoi vous faites un championnat ?
Pourquoi nous organisons ce championnat-là ? Il s'avère que depuis de nombreuses années, le club de Go de Grenoble a un fort dynamisme auprès du public jeune. On a une école de Go qui a produit un certain nombre de champions de France, en catégorie lycée, collège et primaire. Et nous sommes déplacés aux Pays-Bas, en Angleterre ces dernières années. On a postulé il y a 3 ans pour l'organiser. On pense qu'avec le dynamisme du club et l'environnement, c'était un lieu approprié.
Qu'attendez-vous de cet événement ?
Ah, de cet événement, j'attends principalement un moment de rencontre. Une rencontre d'abord entre les jeunes qui viennent de ces différents pays européens, qui est une Europe élargie, hein, c'est pas juste l'Europe des États membres. Puis également de créer une rencontre avec le public grenoblois. C'est-à-dire que le jeu de Go va être un support pour des activités autour du monde artistique. Donc on a travaillé avec l'annexe des Beaux-Arts, des gens qui sont dans le monde de l'art, parce qu'il y a une perception du Go dans le monde de l'art. Il y aura des activités sportives. Donc pour nous, c'est vraiment un moment de rencontre pour les Grenoblois et puis ces gens qui viennent de partout.
Justement, vous dites que les gens viennent de partout, mais il y en a qui ne vont pas parler forcément le français ici ?
Absolument, oui. On reçoit des délégations russes, ukrainiennes, qui ne parlent pas du tout français. Donc nous, on a des traducteurs dans certaines de ces langues-là. On utilise quand même beaucoup l'anglais, hein, qui est une langue intéressante, mais Et c'est là où c'est fascinant, c'est de voir se rencontrer des jeunes qui ne se comprennent pas, qui parlent absolument pas la même langue, mais en revanche, ils ont un temps d'échange et ils partagent quelque chose ensemble.
Quelle est l'origine du jeu de Go ?
Le jeu de Go est un jeu qui provient d'Asie, de Chine principalement. On remonte à 3500 ans à peu près, l'âge du jeu de Go. On dit que c'est l'un des plus vieux jeux du monde. Et ensuite, il s'est développé et puis il a migré en Corée et au Japon. Et c'est principalement au Japon, au XVIe siècle, où il a été étudié avec mise en place des premières écoles de Go et les traités.
Quel est le but du jeu ?
C'est un jeu dont la finalité est de maîtriser l'espace sur un plateau. Voilà, celui qui a un petit peu plus d'espace que son adversaire gagne.
Est-ce que c'est aussi difficile que le jeu d'échecs ?
Les règles sont beaucoup plus simples, puisque en 2 minutes, on peut jouer. Mais derrière cette simplicité se cache une complexité quasi infinie, puisque le jeu de Go a été jusqu'à l'année dernière le dernier jeu à résister à l'intelligence artificielle, de par les possibilités multiples et quasi infinies.
Est-ce que vous jouez souvent au jeu de Go ?
Alors moi je joue régulièrement, oui, au moins 2 ou 3 fois par semaine, que ce soit avec des jeunes, des gens de mon âge ou même des gens plus âgés.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce jeu ?
J'aime cette rencontre qui se fait autour d'un plateau. On a l'impression de découvrir son partenaire, plus que son adversaire. C'est un jeu où il se passe énormément de choses sur le plateau. Il y a des moments de stress, des moments d'angoisse, des moments de plaisir, il y a des moments de réflexion, des moments de recherche. Un vrai moment de vie intense.
Faut-il réserver pour venir au championnat de jeu de Go ?
Alors oui, pour participer au championnat d'Europe jeune, il faut s'inscrire. Hein, il faut faire partie d'une fédération européenne et il faut s'inscrire en ligne pour pouvoir venir jouer. Venez découvrir ce jeu de Go. Il y aura des expositions autour du manga. Il y a un manga très célèbre qui s'appelle Ikaru no Go. Et nous avons la chance et l'honneur d'accueillir sa scénariste qui vient directement du Japon, rien que pour nous. Donc pour ceux qui aiment la bande dessinée, je crois que ça va être super. Et puis enfin, venir voir un peu comment on mélange le sport à la salle d'art de Boissieu où il y aura le Go Escalade, qui est une création de notre club. Venez, n'hésitez pas à venir jouer. Je rappelle juste qu'il y a à peu près maintenant plus de 22 écoles à Grenoble qui jouent au jeu de Go. Que la ville de Fontaine, c'est pareil. Il y a 5-6 écoles qui se mettent à jouer au Go et qui souhaitent propager cette activité. Et puis on a des sollicitations un peu de partout.
D'accord, merci pour l'interview.
Et je vous en prie.
Voilà, alors on remercie chaleureusement Radio Villeneuve pour cette interview qui lance déjà pas mal le sujet du Go, puisqu'on a eu un petit historique. Gaëlle, je te laisse démarrer cette interview si tu le souhaites.
Eh bien, d'abord, bonjour. Je voulais commencer par compléter un petit peu ce qu'on a entendu dire. José Olivares nous explique que le Go est un jeu de maîtrise de l'espace. Donc en fait, pour préciser un petit peu ce qui se passe dans une partie de Go, donc on a 2 adversaires qui ont les couleurs noir et blanc, qui vont jouer sur un plateau qui s'appelle le Goban et qui en fait est quadrillé. On a 19 lignes par 19 colonnes. Et ça fait 361 endroits possibles où le premier joueur va pouvoir jouer sa première pierre. Donc les deux adversaires, ou comme dit José, les deux partenaires, vont poser chacun leur tour une pierre. On part d'un goban qui est vide, et on arrive à la fin à un goban sur lequel on a des pierres noires, des pierres blanches, et ça fait une sorte de... ça dessine des territoires blancs, des territoires noirs. Et c'est celui qui a le plus de territoire qui a gagné la partie. Il suffit d'avoir juste un tout petit peu plus de territoire pour gagner. Donc ça n'explique pas vraiment comment fonctionne le jeu, mais on va en savoir un petit peu plus avec Ismaël. Donc Ismaël, toi, je sais que tu participes parfois à des initiations où tu apprends à des gens comment jouer au Go, des gens qui éventuellement n'y connaissent rien du tout. Comment tu fais pour initier quelqu'un qui n'a jamais joué à ce jeu ? Comment tu fais pour lui expliquer le jeu ?
Alors, pour initier, pour que les personnes accrochent, surtout, vu que c'est un jeu quand même où on joue à deux, il y a quand même quelque chose de fort entre les deux personnes, comme on l'a entendu dans l'interview. Dans les parties de Go, il y a plusieurs moments, le stress, les bons moments et les moments de réflexion. Alors, il faut faire comprendre ça à notre élève un petit peu. On doit lui faire comprendre que on le met dans un petit contexte. Par exemple, on va parler de quand il a été créé, où on lui posera un peu de questions et tout ça pour qu'il participe aussi un petit peu. Alors du coup aussi pour la chose technique, on commence à parler déjà de quand il a été créé tout ça, mais on va aussi dire où il a été créé tout ça.
Bah dis-le, quand est-ce qu'il a été créé?
Alors il a été créé il y a 4000 ans avant, en avant, en arrière, par un roi. Mmh. Qui voulait créer un jeu et la mettre dans sa nation. C'était un roi de Chine. Mmh. Donc les premiers joueurs ont été chinois. Mmh. Et il voulait faire comprendre à ses fils que... Parce que ses fils attendaient la mort de son père pour pouvoir avoir son héritage et sa place. Du coup, il se dit qu'avant sa mort, il aimerait bien apprendre à ses filles... à ses fils un jeu et que du coup en Chine on appelait Wei Qi. Mm-hmm. Du coup il a été créé en Chine, mais les écoles japonaises l'ont pris et ont commencé à jouer, et la Corée a été le troisième pays à avoir joué au Go, et sur ces trois pays en ce moment même il y a encore des tournois. Et surtout un grand tournoi connu, je pense que Gaël, tu connais, s'appelle la Coupe Oninbo. C'est une coupe entre ces trois pays, Japon, Chine, Corée.
C'est un peu un championnat du monde de Go ?
C'est pas vraiment championnat du monde, parce qu'il y a juste ces trois pays qui jouent. Et c'est vraiment quelque chose de très fort de se dire qu'il y a 4000 ans, les gens jouaient à un tel jeu, mais... C'est fabuleux, c'est bien.
Du coup, si je comprends bien, quand tu parles un petit peu de l'histoire du Go dans les grandes lignes à la personne, ça lui donne vraiment envie de jouer. Et après, comment tu fais pour le faire jouer, du coup, rapidement? Vous jouez tout de suite sur un plateau de 19-19?
Non, on ne joue pas sur un plateau de 19-19. Parce que 19-19, on ne s'en rend pas trop compte, mais c'est quand même grand. Et le fait de voir quelque chose de grand, ça peut déconcentrer celui que tu vas prendre. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un Goban, un plateau de Go, plus petit. Et on va commencer avec le 9-9. 9, c'est un peu comme le 19-19, mais c'est 9-9. Du coup, vu que l'espace est plus petit, et il y a une forme de départ pour faire comprendre à celui que tu inities, que... C'est peut-être plus petit, mais ça te demande quand même la même réflexion. Mais la partie se terminera plus rapidement.
Et alors, qu'est-ce que tu expliques comme règle en premier? Est-ce que tu expliques toutes les règles du jeu tout de suite?
En fait, on n'explique pas les règles. On va commencer à jouer une partie et un problème va se poser. À un moment, il y a des techniques qu'il faut connaître, qu'on appelle des tesuji, des techniques. Et du coup, plus tu connais de tesuji, plus ton niveau va être élevé et plus ton niveau va se faire voir que tu es fort. Du coup, au début, on va apprendre la technique de l'escalier, qu'on appelle en japonais le shisho. C'est une technique de base qu'on va te faire apprendre parce que tu vas la retrouver très facilement sur une partie. On explique cette technique. Alors déjà, si on en arrive à là, le jeu est compris pour celui qui veut apprendre. Alors, s'il l'accroche, tu peux lui apprendre encore d'autres techniques. Comme, je vais citer quelques noms, le guetta, des techniques de vie et de mort, comment tuer une groupe, comment tuer une pierre plus facilement. Tout ça va rentrer dans la façon d'expliquer dans l'initiation.
D'accord. Et alors, l'élève auquel tu apprends, il a une chance de gagner contre toi, qui est très fort, il a sa première partie ?
Eh bien, moi, en tant qu'initiateur, je vais le laisser. Déjà, au début, je vais commencer à lui apprendre et on ne termine pas souvent les parties. Parce que vu qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a des problèmes qui se posent quand même. Et du coup, les problèmes vont se poser. Et avant de terminer la partie, je vais lui montrer. Je vais lui dire que je vais lui apprendre déjà. Et s'il comprend, on va refaire une partie. Et en sachant que lui, il sera au courant que peut-être dans la partie, il pourra utiliser cette technique. Et bien, sa façon de jouer va changer.
Et alors, moi, j'ai jamais joué au Go. Qu'est-ce qu'il y a sur le plateau au départ et comment tu proposes à ton initié de commencer à jouer ?
Bah, en fait, on fait des initiations dans des événements.
Mais si tu me décris le plateau, parce que t'imagines, là, il y a des gens qui sont en train de nous écouter et du coup, il faut qu'ils puissent se faire une image.
Ouais. En fait, un plateau de Go, c'est à peu près comme un échiquier. Mais il y a plusieurs Goban, le plateau de Go, du coup. Il y en a un 9-9, un 13-13 et un 19-19. Au début, quand on commence, on va jouer sur 9-9. Si on évolue un petit peu, on pourra tester 13-13 et 19-19. Et un plateau de Go, comme tu m'as posé la question, quand on commence en étant débutant, c'est compliqué de savoir où jouer. Alors du coup, on va poser 4 pierres, ce qu'on appelle des pierres de Go, on va appeler ça des pierres. Et les couleurs sont noires et blanches. Alors on va poser 4 pierres. On va mettre 2 pierres, une pierre noire et une pierre blanche à côté, et en bas, une pierre blanche et une pierre noire à côté, pour que ça fasse un croisement. Et on dit qu'une pierre a 4 libertés. Donc si vous imaginez un goban dans la tête, elle a 4 intersections qui partent. Vu qu'on les colle entre elles, elles ont moins d'intersections. Donc en cette forme-là, c'est une forme de combat, ce qu'on va appeler ça. Elles ont 2 libertés chacune, les pierres. Et du coup, on voit qu'on est déjà dans une forme de combat, qu'il faudra sauver ces pierres, attaquer en même temps.
Okay. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, ça, c'est une forme de jeu qui n'est pas tout à fait le jeu de Go, mais qui est une façon d'expliquer au début, une façon de pouvoir se lancer dans une première partie en partant d'un combat qui est plus intuitif. C'est ça ?
C'est ça. On va juste faire un peu plus de combat pour qu'il ait la notion de combat pour faire une vraie partie de Go où là, les critères de réussite sont avoir des points. Parce que rien qu'en capturant une pierre, on fait 2 points.
Donc dans ton jeu, on peut capturer des pierres, donc on peut les sortir du jeu, c'est ça ?
Exactement. Quand on va capturer une pierre en disant qu'elle est capturée...
C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'issue ?
Elle n'a pas d'issue possible pour ressortir.
D'accord.
On va prendre la pierre et la poser, vu qu'on a un bol où jouer, et juste à côté, on a notre couvercle. Et sur la pierre qu'on aura capturée, on va pouvoir la poser sur le couvercle.
Bon, je crois qu'on voit que c'est un jeu quand même assez compliqué, mais qu'on peut tout de suite commencer à jouer assez rapidement et qu'on peut initier des gens sans avoir toutes les connaissances, mais qu'on va pouvoir aller très très loin dans les connaissances qu'on va pouvoir apprendre par la suite. Mais du coup, on aurait bien aimé savoir aussi comment toi tu vis ce jeu, combien de fois tu y joues par semaine, et qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'y jouer ?
Alors, ce jeu, comme l'a dit José Olivares, c'est quand même un jeu un peu... On peut deviner notre adversaire. On peut, par exemple, si j'aime bien personnellement jouer avec des personnes que je n'ai jamais joué, déjà pour jouer avec eux, pour mon bien à moi, mais quand j'initie, c'est peut-être pour leur bien à eux, mais ça me fait toujours plaisir de diffuser ce jeu et on aime toujours bien apprendre des choses parce que tout apprendre au jeu de Go, c'est pas possible.
J'ai entendu, t'as dit juste très rapidement, on peut sentir l'autre personne en face.
C'est quelque chose un peu de social. Personnellement, j'aime bien jouer avec des adversaires contre qui je n'ai jamais joué. C'est bien parce que ça. on parle à travers ce goban, en fait.
Et je crois que tu as déjà joué contre des personnes qui ne parlaient pas ta langue, en fait, qui ne parlaient pas le français.
Bah, j'ai fait plusieurs voyages dans le monde, dont un au Japon, et un pays fondamental pour le jeu de Go. Donc, j'ai joué là-bas, et j'ai vraiment appris que, à travers ce goban, eh ben, y a un respect phénoménal. Le fait de respecter son adversaire, le fait de... Rien que le fait de dire bonne partie au début, on sent que... C'est quand même... Qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer dans la partie de passionnant. C'est... Rien que de jouer sa première partie, on veut tout de suite en jouer une autre. Parce que si je la perds, on sera quand même déçu de perdre. Donc du coup, on va vouloir rejouer.
Donc
rejouer.
Ça te fait penser à quoi?
Rejouer.
À quel autre jeu?
Quel autre jeu? J'ai déjà joué aux échecs et
à aucun autre.
J'ai déjà joué à plein de jeux de stratégie. J'ai déjà joué au shogi. J'ai testé le shogi. C'est un jeu d'échecs à peu près, mais au Japon.
Alors ce jeu, tu prends des cours de...
Oui, je prends des cours. Et je joue aussi pour le plaisir. Mm-hmm. Je prends des cours avec quelqu'un qui s'appelle Mathieu Delisotti et In Seong Wong. Tous deux sont des profs de Go, mm-hmm, qui enseignent. In Seong Wong est un Coréen qui est connu au classement européen car il a déjà été une fois champion d'Europe. Et Mathieu Delisotti est parti en Corée pour... apprendre vraiment, faire apprendre aux gens le Go. Parce qu'il y a les initiations pour commencer le jeu de Go, et après il y a vraiment quelque chose d'énorme après ça. C'est quelque chose de compliqué, et du coup il faut... Il travaille avec les enfants, il travaille avec il fait des stages.
Donc toi maintenant t'es rentré dans ce compliqué?
En fait, il y a...
Dans ton niveau.
Pour
dans
mon niveau, il n'y a pas vraiment de question de compliqué.
T'es plus dans l'initiation?
Bah non, logiquement non. Mais je suis plus dans l'initiation, mais je suis quand même dans un endroit très vaste. Parce que pour moi, enfin pour des gens très forts, je suis quand même débutant. Et du coup, oui, je suis peut-être rentré dans le compliqué.
Et ça fait moi je m'interroge, ça fait combien de temps que tu joues au Go?
Bah ça fait à peu près 4 ans.
Et t'as commencé à quel âge du coup?
J'ai commencé vers 8 ans, mais ça fait 4 ans parce que j'ai commencé en fin d'année, j'étais au CE2 je me rappelle, CE1, CE2, et j'ai commencé oui à 8 ans, de 8 ans vers la fin d'année.
Donc ça fait 4 ans là, maintenant t'as 12 ans là.
En décembre, ça fait 4 ans.
Alors, je crois qu'il nous faudrait une deuxième émission pour que tu finisses de nous raconter ta passion pour le Go. Malheureusement, l'émission arrive à sa fin. Et du coup, on voulait peut-être faire un très court dernier point sur qu'est-ce qui va se passer la semaine du 18 au 25, avant de conclure et de vous dire au revoir.
Je rappelle que ça commence demain, dès samedi, du 18 jusqu'au 25. On a la semaine du jeu de Go à Grenoble qui se tient en parallèle du championnat. Et donc il y aura bien sûr des initiations au Go, mais aussi du Go escalade, des ateliers dessin, calligraphie, origami, et la rencontre de la scénariste du manga Hikaru no Go, que je vous conseille de lire ou de regarder si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, parce que c'est une très bonne façon d'en apprendre plus, de se mettre dans l'ambiance et de voir des choses qui ont été dites au cours de l'émission. Toutes les informations pour la semaine du jeu de Go sont disponibles sur le site du Club de Go de Grenoble, donc à l'adresse http://grenoble.jeudego.org. Et si ça vous intéresse, le jeu de Go, vous pouvez, par l'intermédiaire du club, découvrir et vous former toute l'année. Donc il y a des rendez-vous hebdomadaires, le lundi, le mercredi, le vendredi soir, donc plutôt pour les adultes le lundi soir et le mercredi soir. Et pour les jeunes, on a une école de go, dont Ismaël a un petit peu parlé, le mercredi après-midi. Et le samedi après-midi, c'est ouvert à tout le monde pour venir faire des parties de go.
Voilà, notre émission s'arrête là. J'espère que vous avez été passionnés par ce jeu de go. Vous pourrez réécouter notre émission car elle sera rediffusée le mercredi et encore donc un vendredi, le vendredi suivant. Voilà, à bientôt.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine.